On commence cette deuxième partie de l'après-midi par l'intervention de Vincent Dubois, professeur de sciences politiques à Strasbourg. Construire l'action publique comme objet sociologique.
Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier Louis pour m'avoir convié à cette discussion à la fois intellectuelle et amicale sur une notion qui est importante pour moi. Alors je voudrais peut-être commencer par rebondir sur ce que disait Julien, c'est-à-dire que je trouve que je n'ai pas du tout les réticences que tu as évoquées à aborder une notion comme la construction d'objets, parce que sans doute qu'on n'a pas eu tout à fait les mêmes modes d'entrée en sociologie, comme tu dis, et que mon mode d'entrée particulier en sociologie dans une formation pluridisciplinaire a été assez méthodologique. En fait, méthodologique au sens de l'épistémologie appliquée, hein, et où les questions, effectivement, de rupture, de construction d'objets, de rapport entre choix de méthode et type d'objet étaient assez centrales. Donc voilà, j'ai commencé par là, et c'est quelque chose qui m'est resté quand j'ai commencé à faire mes premiers travaux de recherche. Et donc voilà, j'aurais pu, sans trop de masochisme, reprendre un certain nombre de mes propres travaux, parce que, non pas que je les considère comme des modèles, bien évidemment, mais en tout cas que dans chacun des cas, je me suis efforcé à commencer autant que possible par cette première opération, cette opération première, qu'est la construction de l'objet. Et donc voilà, sans être trop long sur ces considérations personnelles, c'est vrai que bon, tu évoquais tes premières lectures. Bon, moi, mes premières lectures, ça a été effectivement le métier de sociologue, initiation à la pratique sociologique, et ordre politique et ordre social. Voilà, ça a été trois textes qui m'ont beaucoup marqué et qui sont toujours moins importants, même si, évidemment, du temps a passé et que bon, la science a progressé d'une certaine manière. Mais néanmoins, c'est des textes qui me semblent toujours extrêmement importants. Alors, je ne vais pas revenir sur des modalités particulières de construction de l'objet que j'ai moi-même pu essayer de mettre en œuvre dans des enquêtes empiriques. Ce que j'ai plutôt essayé de faire, c'est de parler de quelque chose de plus général, l'action publique de façon globale comme domaine possible de l'investigation sociologique, à partir finalement d'un matériau qui est au départ plutôt un matériau pédagogique. C'est-à-dire que je me suis saisi de l'occasion qui nous était offerte là de réfléchir sur les questions de construction de l'objet comme occasion précisément de reprendre un certain nombre de notes de cours, puisque mes étudiants subissent un séminaire de sociologie de l'action publique en deuxième année de master et que je commence l'année par une séance sur la construction de l'objet. Donc voilà, il se trouve que forcément c'est un séminaire qui se veut interactif et donc les choses ne sont pas complètement arrêtées, formalisées. J'ai essayé de les présenter là sous une forme la plus organisée possible et en retour, comme ça, j'ai un petit document maintenant que je pourrais donner à mes étudiants de l'année prochaine, ce que je n'avais pas pris la peine de faire jusqu'à présent. Donc, merci pour eux, Louis, de m'avoir donné cette occasion. Alors, construire l'action publique comme objet sociologique, alors peut-être que le problème auquel on est d'emblée confronté lorsque on traite d'action publique, c'est-à-dire bon, de ce qu'on appelle communément les politiques publiques ou l'intervention des pouvoirs publics, l'intervention de l'État, c'est que on est face à une masse considérable de travaux divers, d'origines variées, et dont une partie très largement majoritaire et très peu satisfaisante d'un point de vue sociologique. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, mais souvent des choses qui sont, de mon point de vue, mortellement ennuyeuses ou qui sont, en tout cas, loin des canons de la sociologie telle qu'on peut la concevoir, avec exigence de rigueur conceptuelle ou d'usage des concepts sociologiques, exigence de travail empirique, etc. etc. Et donc, il faut savoir comment se positionner et comment, bon, à la fois tirer profit malgré tout de ce qui existe, hein, mais établir une sorte de cartographie, hein, des différents points de vue sur l'objet pour mieux définir ce qui constitue en propre ce que je me propose d'appeler sociologie de l'action publique. Je vais faire un petit peu ce qu'évoquait Marie-Pierre Pouilly tout à l'heure, c'est-à-dire bon, cette opération qui consiste à réfléchir d'abord sur l'ensemble, hein, des points de vue sur l'objet pour mieux, encore une fois, spécifier le sien. Hein, bon, je crois que c'est dans le début du cours sur l'État où Bourdieu évoque, hein, le fait que, bon, précisément en lieu et place de l'art sempiternel, revue de littérature comme exercice académique routinisé, il faudrait faire, hein, un espace, hein, il faudrait reconstituer chaque fois l'espace des points de vue académiques et en bonne logique de sociologie que je n'ose pas appeler bourdieusienne, hein, à rapporter l'espace de ces points de vue scientifiques à l'espace des positions des chercheurs ou prétendus tels qui énoncent ou en tout cas qui adoptent ces points de vue. Alors j'ai pas cette prétention, hein, parce que ça nécessiterait un travail qui d'ailleurs, j'y reviendrai peut-être, mériterait d'être fait, mais je vais le faire de façon assez cavalière pour donner au moins quelques grands points de repère. Alors, en sociologie, quel que soit le domaine de la sociologie dans lequel on développe ses travaux, il est rare qu'on ne tombe pas sur des questions liées à l'intervention des pouvoirs publics. Bon, Rémi est parti, mais enfin voilà, de la sociologie de la famille aux politiques familiales, de la sociologie de l'éducation aux politiques éducatives, etc., etc. Et donc, il y a une partie, hein, des travaux qui peuvent être mobilisés, qui ne prennent pas véritablement l'action publique comme objet, mais qui la rencontrent en quelque sorte, hein, au fil d'enquêtes empiriques sur des objets construits d'un autre point de vue. C'est parfaitement légitime du point de vue de la logique de construction des différents objets, mais ça pose un certain nombre de problèmes si, au contraire, hein, on essaye de se doter de l'action publique comme objet sociologiquement construit. Dans ces travaux, je ne vais pas en citer de nombreux, mais j'en donnerai peut-être un exemple ou deux, hein, les questions d'action publique, un petit peu comme les dispositifs législatifs par exemple, hein, sont plutôt traitées comme des espèces, ce que j'appellerais des variables contextuelles, hein, des choses qu'il faut savoir, parce que, bon, voilà, on se dit, bon, voilà, on travaille sur les transformations de la famille, il y a une loi sur le divorce, bon, bah, c'est pas sans rapport, on énonce la loi sur le divorce, on en rappelle le contenu, et ensuite on passe à autre chose, c'est-à-dire qu'on traite, hein, la sociologie de la famille en tant que sociologue, que sociologue de la famille. Hein, j'en donnerai juste une illustration, non pas pour l'épingler, parce que c'est un travail que je trouve par ailleurs tout à fait important et qui est devenu un classique de la sociologie française, hein, c'est le livre de Serge Pogam sur la pauvreté, hein, la société française et ses pauvres. Alors, que je cite parce qu'il prétend un peu faire une sociologie des politiques de la pauvreté, hein, pour celles et ceux d'entre vous qui connaissaient le livre. En fait, il y a toute une première partie qui porte sur les discours politiques et publics sur la pauvreté, sur l'évolution d'un certain nombre de dispositifs, hein, et puis la deuxième partie qui porte sur les profils, même typologie des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Mais en fait, quand on regarde à la fois les références et la manière de construire l'analyse, la première partie est en fait très largement asociologique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concept mobilisé pour rendre compte des rapports de force constitutifs de l'orientation dans un sens ou dans l'autre de la politique, des politiques de la pauvreté. C'est une restitution assez internaliste à la fois des dispositifs réglementaires et des discours. Et la sociologie ne commence que dans la deuxième partie, en fait. C'est-à-dire que là, il y a un appareil conceptuel, il y a des méthodes, il y a un travail empirique original. Hein, et donc voilà, tout se passe comme si, quand on est sociologue, pour une part en tout cas, on pouvait finalement, encore une fois, hein, ne pas véritablement traiter l'action publique, mais en faire une espèce d'introduction contextuelle générale. Alors, évidemment, ça pose de mon point de vue, toute une série de problèmes, puisque l'objet n'est pas construit comme tel, il n'est pas véritablement traité, ça peut être informatif, mais pour ne donner que cet exemple ou cette limite, ça empêche de penser ensemble des transformations de politique sectorielle, par exemple. Parce que voilà, les changements qui s'opèrent dans les politiques sociales, eh bien, ils sont aussi observables. Non, bon, voilà. Faute d'outils ou de réflexions ou de questionnements qui soient génériques sur, qui posent la question des transformations de l'action publique de manière générale et pas simplement de l'évolution sectorielle, parce que la sociologie est elle-même découpée sectoriellement de tel ou tel objet. Hein, voilà. Donc voilà. Au lieu de l'objet conquis, construit, constaté, on a un objet qui est plutôt finalement contourné, dilué, et puis j'ai pas de troisième adjectif qui me vienne directement en tête, mais il faudrait que je trouve pour la formule pour mes étudiants l'année prochaine. Voilà. Non constaté. Alors, par opposition à ça, il y a un gros morceau, si je puis dire, qui va me m'occuper un peu plus longtemps, enfin, si j'ai le temps, qui est ce qu'on appelle l'analyse des politiques publiques. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Évidemment, là, ça va être très, très succinct. Mais ce que je voudrais souligner surtout, c'est que c'est constitué, d'abord aux États-Unis, un champ disciplinaire à soi seul, qu'on appelle l'analyse des politiques publiques, qui est au départ une espèce de carrefour disciplinaire, et qui a toute une série de caractéristiques dans sa genèse, pour le coup, qui détourne très très largement d'un mode de raisonnement qu'on pourrait qualifier de sociologie. La première chose, si on s'intéresse au premier commencement, c'est-à-dire timidement dans les années 30 et puis surtout dans les années 60, c'est que l'analyse des politiques publiques est ce qu'on appelle classiquement, ou ce qu'on peut appeler, d'ailleurs pas spécialement classiquement, mais ce qu'on peut appeler souvent une discipline praxéologique, c'est-à-dire c'est plus une science de gouvernement qu'une science critique des activités de gouvernement. Science de gouvernement, donc, dans laquelle un certain nombre de chercheurs, d'horizons, encore une fois, disciplinaires relativement variés, des économistes, des politistes, qui empruntent aussi à la psychologie, vont se faire des auxiliaires pouvoir politique dans une finalité de rationalisation et d'amélioration des choix publics, en aidant à la décision, en rassemblant des informations utiles aux décideurs, etc., etc. Bon, voilà. Donc, assez loin, déjà, de ce qu'on considère comme du travail sociologique à proprement parler. Et, alors, je vais évidemment très très vite en besogne, mais la constitution de ce sous-champ disciplinaire a eu ensuite un effet qui est très bien étudié dans un article qui fait autorité sur ces questions, en tout cas en langue française, qui est l'article de Philippe Bezès et Frédéric Pierru, paru dans une revue qui s'appelle « Gouvernement et action publique », qui s'appelle « Les déliaisons dangereuses », et qui montre comment cette autonomisation a produit des effets de cécité en découpant des portions d'objets que, en bonne logique, on pourrait considérer comme intimement associés les uns aux autres. C'est-à-dire sociologie de l'État d'un côté, sociologie de l'administration de l'autre, et analyse des politiques publiques qui, en fait, prend ses distances par rapport à ces deux piliers des travaux sur les pouvoirs publics et leur action préexistante. Donc, effet de cécité qui est encore redoublé par quelque chose là, dont Bezès et Pierru ne parlent pas, mais qui est la sacro-sainte distinction qu'on doit à la langue anglaise, pour le coup, entre policy et politics, qui fait que l'analyse des politiques publiques, c'est l'action des pouvoirs publics et qui laisse de côté tout ce qui est de l'ordre, en gros, de la compétition pour la conquête et le maintien à des positions de pouvoir politique. Ce qui est, évidemment, d'un point de vue de sociologie politique, un non-sens absolu, mais qui est constitutif même, d'une part au moins, de cette spécialité. Ensuite, pour avancer et ne pas être trop long, il y aura une belle étude de cas à faire. Alors, je crois que ça existe en partie sur le cas des États-Unis, mais ce n'est pas forcément très bien fait. Il faudrait aussi le faire sur le cas de la France ou d'autres pays. Il y a véritablement un processus d'autonomisation et d'académicisation de l'analyse des politiques publiques qui se détache progressivement et partiellement de ses premières origines très pratico-pratiques, si je puis dire, et qui, donc, voilà, avec alors, tous les critères de l'autonomisation ou de la sociologie des professions sont réunis. C'est des revues spécifiques, c'est des sociétés savantes, c'est des chaires, c'est des programmes, des congrès, etc. Avec un effet, alors pour le coup, complètement un effet de champ, qui va constituer une espèce d'ensemble de plus en plus auto-référencé, dont la conséquence va être l'oubli de toute une série de, à la fois de préoccupations méthodologiques, mais aussi d'outils conceptuels, qui sont les outils génériques des sciences sociales et de la sociologie, et de la sociologie en particulier. Par exemple, pour prendre un cas qui m'est cher, sur lequel j'ai déjà pas mal réfléchi, il n'y a à peu près aucun travaux qui mobilise la notion de champ pour rendre compte de l'espace de production d'une réforme, d'une action gouvernementale, en dehors bien évidemment de l'article séminal de Bourdieu-Christin sur la réforme de la politique du logement et quelques exemples, mais finalement relativement peu nombreux et qui vont en général jamais jusqu'au bout, c'est-à-dire y compris en mobilisant la technique qui va avec et qui objective l'espace des positions. En revanche, il y a une floraison de concepts ad hoc, communauté épistémique, advocacy coalition, communauté de politique publique, réseau, etc., qui pourraient finalement décrire des choses assez proches, mais à mon avis, sans la force méthodologique et sociologique d'une notion comme la notion de champ, il y en aurait de multiples exemples. Donc, voilà, déjà un premier état de la question pour montrer ce qu'il y a à faire, me semble-t-il, d'un point de vue sociologique pour essayer de développer une perspective alternative à celle-ci. Alors, c'est là que, outre mes problèmes de vision, c'est là que se justifie l'usage de cette espèce de technique de consultant que je n'aime pas spécialement, mais bon, voilà, qui a ses côtés pratiques. J'ai profité de l'occasion pour faire un graphique. Un graphique qui va résumer un petit peu tout ça et qui va permettre de situer ce que j'appelle la sociologie de l'action publique. Donc, alors, je n'ai pas fait une ACM, mais il faudrait la faire, en tout cas par hypothèse, voilà, ce qu'on pourrait, comme plutôt en raisonnant de manière idéale typique, dire qu'il y a, il y a deux principes d'opposition. Un premier principe d'opposition qui est la spécification de l'objet. Est-ce qu'on se dote de l'action publique comme objet principal et on le construit comme tel, ou est-ce qu'au contraire, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un objet secondaire un peu périphérique. Et puis, sur l'axe horizontal, on a le degré d'autonomie ou au contraire d'hétéronomie, c'est-à-dire à droite, les travaux les plus directement appliqués, et puis, excusez-moi de liaison tout à fait mal à propos, les plus directement appliqués, et puis à gauche du graphique, ceux qui tirent du côté d'une science autonome, critique, pour employer ce terme qu'il ne faut pas utiliser, mais que j'utilise quand même, faute de mieux. Vous l'aurez compris, en bas du graphe, c'est ce que j'ai appelé les sociologies sectorielles, famille, éducation, etc., qui n'abordent pas véritablement l'objet et qui se déploient sur toute la gamme de la sociologie de l'éducation comme science de l'État, comme sociologie d'État, pour employer l'expression de Franck Poupaud, jusqu'à la sociologie critique de l'éducation. En haut du graphe cette fois, l'analyse des politiques publiques, telle que je l'ai décrite, dont l'origine est tout à fait à droite du graphique, mais avec un déplacement du côté de l'académicisation, comme je l'ai évoqué. Ensuite, Ce n'est pas du tout complet, hein, mais je donne simplement quelques points de repère. Il y a toute une série aussi de pratiques à la fois professionnelles et savantes ou demi-savantes, hein, qui ont trait aux politiques publiques, hein, l'évaluation, le management public. Hein, et donc, pour prendre des exemples français, on pourrait là faire une histoire sociale. Enfin, il faudrait faire une histoire sociale et intellectuelle de tout ce domaine en montrant le rôle central de Sciences Po Paris, au sein de Sciences Po Paris, notamment du Centre de sociologie des organisations, avec des gens comme Jean-Claude Teuning, par exemple, hein, qui, venant de la sociologie crozillérienne, font partie des premiers qui vont à la fois académiciser les politiques publiques avec cette espèce de coup de force qui consiste à consacrer un tome complet sur quatre du traité de sciences politiques PUF 1983 aux politiques publiques à une époque où ça n'existe quasiment pas en France, hein, et qui va six ans plus tard à la fois publier le premier manuel en langue française avec Yves Meigny, qui est en fait une importation, c'est à peu près exclusivement de l'importation de travaux américains, et qui va en même temps devenir président du conseil scientifique de l'évaluation au moment où Michel Rocard lance les premières politiques d'évaluation des politiques publiques. Donc voilà, je ne prends que cet exemple pour illustrer ce que peuvent être ces proximités sociales, intellectuelles et même géographiques, si on pense à l'implantation du CSO, entre le monde des décideurs publics et puis un certain nombre de... Là, j'ai mis pour mémoire un ensemble que j'ai mis en anglais parce que administration publique en France, ça connote directement droit public ou droit administratif, alors qu'au niveau international et en particulier en Amérique du Nord, c'est un ensemble assez composite. Hein, je ne veux pas développer, mais qui intègre aussi parfois des travaux qui ne sont pas si éloignés que ça d'une perspective sociologique, mais qui donc sont un petit peu au milieu du guet en termes de spécification de l'objet. Là aussi, je n'ai pas le temps de développer. Et puis, je termine, bien sûr, par la sociologie publique, de l'action publique, qui est à la fois du côté de la spécification de l'objet et du côté du pôle le plus autonome. Alors, il se trouve que, comme je le disais, je me suis saisi de cette occasion pour remettre un petit peu mes notes au propre. Donc, je vais passer très vite. Et j'ai fait un petit texte. Si jamais certains d'entre vous sont intéressés, je peux leur donner. Ça me permet de passer directement sur ces questions qui mériteraient ou qui impliqueraient que je prenne plus de temps que je n'en dispose sur... un certain nombre de biais les différents points de vue que j'ai évoqués. Je développe pas, je passe directement à ce qui est plutôt la partie qui consiste à mobiliser des instruments de rupture ou à construire un rapport à l'objet, une posture et à proposer une conception de l'objet qui, précisément, se détache de ces orientations et des biais dont elles sont porteuses. Alors, je vais paraphraser librement ici la formule de Bourdieu à propos de l'État, penser l'État et non être pensé par lui, c'est penser l'action publique et non être pensé par elle, c'est-à-dire, déjà, rompre ou en tout cas avoir consciemment à l'esprit toute une série de spécificités qui font que les problèmes de construction de l'objet qui se posent de façon générale à n'importe quel travail sociologique se posent peut-être avec une acuité un peu plus forte lorsqu'il s'agit d'étudier l'action publique pour toute une série de raisons que je vais évoquer rapidement. La première étant que, je vais le dire de façon générale, que quand on s'intéresse à l'action publique, à la mise en œuvre de réformes, à la définition de réorientation, on a, pour le dire vite, affaire aux principaux prescripteurs des principes de vision et division du monde social. Des généralistes, des experts, des hauts fonctionnaires, des hommes politiques. Et donc, on est d'emblée exposé à étudier des pratiques dont les agents essayent de construire la théorie. Il faut se défaire de la façon même dont ces agents construisent et entourent dans un discours qui est parfois d'ailleurs aussi emprunt de références savantes ou demi-savantes. Donc voilà, ce sont des mécanismes qu'on connaît en sociologie de manière plus générale, mais qui sont sans doute plus forts ici qu'ailleurs. J'évoque une forme de monopole, au moins relatif, de l'information sur ces matières. Évidemment, c'est très fort en ce qui concerne les statistiques, par exemple, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. C'est les catégories d'entendement, bien sûr. Hein, là, il manque une partie du mot. Hein, ce que je veux dire par là, c'est que dans la conduite même de ce qu'il s'agit d'étudier, sont produits, ce que j'évoquais, une théorie de la pratique et des manières de construire, cadrer, définir la réalité sociale en même temps que la réalité de l'intervention des pouvoirs publics sur cette réalité sociale. Juste un exemple, puisque Louis m'a demandé de le faire, c'est en partant de ce type de constat que j'avais moi-même construit mon travail sur les politiques de la culture pour, plutôt que de prendre d'emblée comme objet les politiques de la culture, réfléchir de façon génétique à la façon dont la culture, historiquement, avait été constituée comme domaine légitime de l'intervention publique et les politiques culturelles comme catégorie de l'intervention publique. Hein. Parce que très souvent, dans les travaux des politiques publiques, on se donne pour objet, finalement, des objets politiques prédécoupés, si je puis dire, qui correspondent, grosso modo, au découpage sectoriel des administrations centrales. Hein. Ça, c'est, en tout cas, ces découpages, à la fois, ont une histoire, et en même temps, ne sont pas sans possible, au moins, effet de réalité, y compris sur la diffusion d'un certain nombre de catégories de perception pour toute une série que j'évoquerai dans un instant. Précisément, on peut, en tout cas, faire l'hypothèse que l'action publique ainsi définie est un objet particulièrement riche pour analyser en pratique les mécanismes de domination symbolique, puisque ces catégories qui sont destinées à agir sur le réel ont potentiellement une incidence d'autant plus forte sur les structures mentales que elles ont toute une série de ressources et la force pour elles, des ressources d'ordre financier, des ressources qui tiennent à la capacité, au rapport d'autorité, etc., qui font a priori accepter au moins partiellement ces principes de division du monde social qui sont construits et prescrits dans la conduite de l'action publique. Après, il y a toute une série de questions qui se posent, notamment des questions d'ordre historique. En fait, on est les uns et les autres convaincus d'une approche génétique, c'est-à-dire d'une approche qui contribue à historiciser les objets. Qu'est-ce qu'il en est lorsqu'on aborde une question comme l'action publique? Est-ce que ça a un sens de parler de sociologie de l'action publique pour l'État médiéval, quoi? Pas complètement, et donc là, il faut faire ce que j'ai pas le temps de faire ici, précisément, un travail d'historicisation permettant d'identifier ce qui va spécifier l'action publique comme forme particulière de régulation, et qui va la distinguer d'une action de l'État ou des pouvoirs publics telle qu'elle est caractéristique de périodes antérieures. Je n'ai pas le temps de le faire, mais c'est un certain nombre de processus connus pour un certain nombre d'entre eux, c'est-à-dire le passage du privé au public après l'établissement de cette frontière, précisément de la prise en charge d'un certain nombre de problèmes. C'est la constitution d'institutions spécifiques destinées à la régulation d'un certain nombre de ces problèmes sociaux en dehors des institutions sociales préexistantes de la famille à l'Église. C'est également un processus de rationalisation, pas forcément seulement au sens weberien du terme, mais au sens où il y a une mise en forme de l'intervention qui présuppose un ajustement des moyens et des fins, qui fait recours à l'expertise et qui se donne au moins tous les atours de la transversalité, ce qui va sans doute spécifié historiquement par rapport à d'autres formes d'intervention publique. Il y a d'autres éléments, mais j'ai pas le temps de les développer. Je me permets là de vous donner une proposition de redéfinition sociologique qui est une construction d'objets possibles de l'action publique comme objet de la sociologie. Je ne vais pas en donner lecture. Je vais vite et j'ai bien conscience que je suis un peu elliptique et ensuite, en plus, que ce n'est pas forcément un domaine que vous connaissez, mais ce type de définition avec les limites qu'elle a, prend sens par distinction et différence des définitions, disponibles sur le marché. Des définitions du type les politiques publiques, c'est tout ce que l'État décide de faire ou de ne pas faire, c'est un ensemble de critères, un programme, une volonté politique, un secteur d'action, etc., qui renvoie, de mon point de vue, très souvent à une vision, pour le coup, objectiviste, et très peu sociologiquement construite. Évidemment, il faudrait là aussi prendre un petit peu de temps pour énoncer et préciser ce que j'entends par chacun des termes de cette définition, mais vous avez au moins l'intention générale et on pourra en rediscuter si ça vous intéresse. Le troisième point, c'était mon point de conclusion, mais je l'ai déjà un petit peu dit. La force du droit ne repose pas sur le contenu des dispositions juridiques ou que le pouvoir des mots ne repose pas exclusivement sur les mots eux-mêmes, mais vous connaissez le mode de raisonnement. Il y a une force peut-être particulière de l'action publique qui repose sur toute une série d'éléments que j'ai énoncés un petit peu trop rapidement précédemment et qui, là aussi, c'est un élément complémentaire à la construction de l'objet qui, comme je le disais, incite aussi à penser l'action publique comme un des éléments qu'on peut considérer comme assez centraux, d'ajustement des structures sociales et des structures mentales, avec une efficacité qui est précisément l'objet de l'enquête. C'est là que commence véritablement le travail sociologique.
Merci Vincent.